se réveiller, arriver en studio et tomber sur George Ben. Ça nous remonte. Parce qu'il y a des matins comme ça, où il y a comme une envie de pas, une envie de rester coincé. Rester coincé, blotti, entre des oreillers amis, des caresses sur les joues, des caresses du mou, du tendre, du rond, du rose, du beau, du bleu. Il y a des envies des matins comme ça, où on n'y croit pas. Où le soir, il y a le débat, entre la peur et l'envie, entre le jour et la nuit. Entre ceux qui vous disent de rester planqué, prostré, ceux qui vous disent que la vie n'amènera rien de joyeux, d'heureux, de mieux. Il y a des matins qui ressemblent déjà à des soirs, des matins qui planquent l'espoir ailleurs, dans d'autres portes, derrière d'autres verrous, derrière d'autres secrets. Et puis tu fonces parce que t'as pas le choix, parce que si tu n'y vas pas, c'est la mort qui viendra et t'auras pas vécu et tu y auras cru, ça n'aura servi à rien que tu naisses, que tu fasses pleurer des gens, que tu fasses de la peine pour personne. Alors, ça sonne dans ta tête comme un réveil intime, comme une sonnerie à toi. Alors ton rythme intérieur se met en route et tu crois aux gens qui t'aiment parce que c'est eux qui ont raison. Le sentiment des autres pour nous porte comme une porte de prison qui se referme sur nos doutes et sur nos peurs et nos angoisses et les autres et la poisse qui colle. Et l'espoir qui racole, et nous on y va. Parce que c'est les autres qui croient en nous, qui nous portent, qui nous tiennent, qui nous amènent. Qui nous amènent, qui nous tiennent debout, de bout en bout, de part en part. Paris, c'est l'espoir. Docteur Dre, merci. Salut, c'est le. C'est le journal, et c'est pas le journal. Thierry Paré s'appelle comment aujourd'hui?
Victoire.
Victoire, et c'est Victoire Fort. Bonjour Victoire Fort.
Bonjour.
Victoire Fort, regardez cette petite musique, c'est la musique du journal et ça vous permet de rythmer l'information.
Super.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?
Bonjour à tous. Donc ça devait être le grand moment de sa campagne. En meeting hier à Bercy devant 20 000 personnes, c'est en tout cas les chiffres communiqués par son équipe, Benoît Hamon a tenté d'électriser la foule avec 1h30 de discours. Lyrique et offensif, la gauche, c'est ma vie, a-t-il déclaré, en n'oubliant pas de tacler ses adversaires sans jamais les nommer. Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection, ajoute-t-il. Ça fait un peu Bourget réchauffé, ça c'est la réponse d'Emmanuel Macron quelques heures plus tard sur le plateau de France 2. Pas de panique, à 5 semaines du premier tour, les candidats à la présidentielle pourront s'échanger quelques punchlines. En face à face, 5 candidats sur 11 débattront ce soir sur TF1 pendant plus de 2h30. Les 5 gros, uniquement, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. François Fillon a lui modifié son slogan de campagne. Fini le courage de la liberté, ce sera désormais François Fillon, une volonté pour la France. Stop à l'impunité policière, c'est derrière cette banderole que plus de 7000 personnes ont manifesté à Paris hier. Un mois et demi après l'affaire Théo, le cortège était réuni place de la Nation. 36 heures après l'attaque à l'aéroport d'Orly, l'autopsie effectuée sur l'assaillant abattu a révélé la présence d'alcool, de cannabis et de cocaïne dans le sang de ce Français âgé de 39 ans. Les gardes à vue de ses proches, celles de son frère et de son cousin, ont été levées. Barack Obama a-t-il fait écouter Donald Trump? Et la Russie a-t-elle interféré dans la présidentielle aux États-Unis? Premières auditions devant le Congrès et des directeurs du FBI et de la NSA. C'est la première fois que les responsables du renseignement américain répondent publiquement à ces questions. Violentes inondations au Pérou, les pluies diluviennes causées par El Niño ont fait 75 morts. Lima, la capitale, et ses quelques 8 millions d'habitants, est particulièrement touchée. Au total, 70 000 personnes ont perdu leur domicile. À Berlin, Martin Schulz prend officiellement la tête du SPD. L'ancien président du Parlement européen a été investi avec 100% des voix. Une première pour le Parti social-démocrate allemand et une nouvelle étape pour Martin Schulz qui affrontera Angela Merkel aux législatives en septembre. Dès la semaine prochaine, le SPD pourra se mesurer à la CDU lors des élections dans le Land de la Sarre. Le SPD est favori, selon les sondages. Et puis sans transition, un mot de foot, le PSG a pu se rassurer après le match cauchemardesque face au Barça. Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique Lyonnais 2-1 hier soir. C'était pourtant l'OL qui avait ouvert le score avec un but de Alexandre Lacazette. L'équipe reste à 3 points de Monaco, en tête du classement de la Ligue 1.
Comment ça s'est passé, journal Victoire Fort, vous pensez?
J'en sais rien.
Ah non, c'est bien, moi j'étais content.
Ouais,
parce que mais Thierry Paré est vraiment en vacances, où il y a eu, genre, vous l'avez croisé, il y avait un escalier, vous l'avez poussé.
Je ne connais pas son visage.
Ah, c'est très... Parce que c'est comme All About Eve, vous savez, peut-être vous avez commencé ici, oui, comme stagiaire, puis un jour vous avez compris qu'en poussant Paré, vous... Pas oui. Du tout.
Oui, j'ai pris le pied de biche.
Mon Dieu, voilà, c'est ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a de la place pour nous, mais il faut la faire, cette place.
Moi, j'ai fait tous les jours de vous pousser dans l'escalier.
Oui, vous m'avez trouvé un tournage très loin, puis vous avez bien...
J'ai essayé de... Oui, je suis pas
arrivé. Vous avez des cartouches, messieurs, ce matin, vous avez des informations, mesdames.
Oui,
merci
énorme.
Beaucoup, Victoire Fort, on vous retrouve à 7h30.
Oui, on en a, oui.
Alors... Mais seulement si on est annoncé le club des connoisseurs de la presse.
D'accord,
sinon,
tout
on dira
de suite
rien.
Après la publicité musique.
7h-9h, plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
Alors, c'est l'heure, c'est la fameuse heure qui est très attendue, parce que c'est l'heure des connoisseurs de l'information et de l'actualité.
Enfin.
Réunis autour de la table, la crème de la crème des meilleurs des meilleurs. Ce n'est pas qu'ils savent tout, mais ils s'intéressent à tout. Ils sont ouverts sur tout. Ils sont tout œil et tout oreille. Ce sont les connoisseurs de la presse. Avec Marie Bonisseau aujourd'hui. Bonjour Marie.
Bonjour.
On dirait un peu le début des grosses têtes. Avec Jean-Yann, Christophe Mélé. Et avec l'amiral, Atmen de Kersauzon.
Ouais, d'ailleurs, elle a eu dans.
Non, enfin bon. Oui, bon. Tito, Thomas von Gartner. Qui ouais. commence qui a le plus
moi.
Qui a le plat le plus brûlant, Christophe Mélé.
C'est brûlant.
Ça sort du fourneau de l'info.
Exactement, c'était dans 20 minutes ce matin. C'est une étude menée par l'université de Berkeley.
C'était super.
Ouais.
Ah pardon,
on va presque plus s'arrêter là, mais donc c'est en Californie. Et cette université, donc ces scientifiques, prouvent que les documentaires animaliers rendent heureux. En effet, donc, les scientifiques ont interrogé 7500 spectateurs sur leurs humeurs quand ils regardaient des films sur des loutres et ils avaient l'air contents. Et du coup, ils ont déclaré, les scientifiques...
Mais c'est spécialement les loutres ou ça marche aussi sur les lions ?
Tous les animaux.
Tous les animaux, même les araignées, vous pensez ?
Même les hippopotames, tous. Et oui, donc, les scientifiques ont déclaré, attention, ces scientifiques, ces variations d'émotions provoquées par des vidéos documentaires sur la nature sont significatives. Oui, on sait que l'émerveillement et le plaisir sont à la base du bonheur. Voilà, ils ont bien bossé.
Très bien. Alors, moi, je ne suis pas sûr quand même qu'il y a des animaux sur lesquels ça ne marche pas. Si
non,
sur
le varan de Komodo, j'ai essayé.
Moi, le varan, c'est le seul animal qui mange d'autres animaux sans les tuer avant. Il les mange vivants.
Oui, il les mastique pendant longtemps.
Il les pique. Il les pique avec sa langue. Et puis, il grimpe aux arbres. Si un varan te course, tu es mort.
Alors, il faut que j'aille à Sumatra, il faut que j'aille où pour avoir cette chance ?
Je ne sais pas, mais renseigne-toi où il y en a.
Et
il
ne va jamais. À Komodo.
À Komodo.
Oui,
pardon.
Il y en a aussi à Komodo.
Attendez.
Oh, non, oui.
Thomas Baumgartner m'a bouché, là. À Komodo. C'est ça ?
Oui.
Et le chien de traîneau, il habite à Traîneau.
À Traîneau, absolument.
Ah oui, d'accord. Il y en a à Couliour aussi.
Et vous savez qu'il y a Maurice René, l'acteur, a fait un documentaire sur le
Dragon de Komodo.
Moi, ça me fout le trac.
Cette information ou l'animal
oui,
lui-même.
Alors, l'animal.
Quelles sont les probabilités de tomber sur un dragon de Komodo dans une rue? Il faudrait qu'il y ait un cirque.
Assez peu, mais s'il y a un zoo ou un truc, parce que c'est costaud, ça peut s'évader de n'importe où. Tu le fous dans une cage, le truc. Il grignote les
barreaux. Pourquoi vous faites des petits cri-cri-cri ?
C'est vrai ?
Vous l'avez déjà fait sur un autre animal ?
C'est une imitation. Je suis
alors, aussi... imitez-moi deux, trois animaux pour rendre les gens heureux ce matin. Un type de singe, lequel ?
Un orang-outan ?
C'était ça ?
Non, c'était le babouin.
Le babouin, autre chose ?
Une poule.
Un chien chez le dentiste, une poule ?
Une hyène.
Sérieusement, je ne crois pas du tout que ce soit ça la hyène. Merci en tout cas pour
la
réponse.
J'ai pas dit que j'étais doué.
Non, il vaut mieux mal imiter mais longtemps.
Oui.
C'est comme vous, Atmen, qui embrassez mal mais longtemps, il paraît. Qu'est-ce que vous avez très...
Et violemment, très violemment. Moi, il faut parler de la Saint-Patrick.
Attendez, ça m'énerve parce qu'il y a bien un écrit. Le patron de Nova.
On t'entend plus. Bon, moi, je continue.
Je regarde là-bas, vous m'énervez, là. Vous regardez, vous avez l'air de juger, vous jugez. Je suis passé dans le couloir. Vous parlez avec Dominique Reynier, vous écoutez ce qui se passe sur votre antenne?
Mais absolument.
Bon, bah alors, on y retourne. Remettez-moi le générique des connoisseurs. C'est pas vrai, ce matin. Les connoisseurs.
Je vais en faire.
Atmen Khelif. Plus de 15 journaux lus ce matin, plus de 600 pages internet feuilletées, plus de 30 radios écoutées, plus de 700 questions posées au bistrot il y est depuis hier soir. Pour arriver à quelle information ?
Non, je vais en faire une beaucoup plus courte. Moi, je suis un peu atterré par la couve de Libé.
Pourquoi ?
Parce qu'ils mettent un jeu de mots le plus stupide, comme d'habitude, Chuck Berry. Voilà, par rapport à la mort de Chuck Berry. Alors, on est vraiment... Ça nous rappelle de tristes mémoires ce qu'ils avaient fait sur Lady Diana. Ils avaient mis Lady Di, à l'époque.
Ouais.
Ou alors, quand l'abbé Pierre, on avait su qu'il avait eu quelques coucheries, ils avaient mis l'abbé a baisé. Alors, on revient au troisième jeu de mots le plus minable qu'ils font. et je voulais leur dire que c'était pas terrible.
Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, parce que oui, parce qu'il est mort en fait, c'est oui. ça. Ben, d'accord.
Bah, vous trouvez nous a... donc Jacques Perry est mort. Hein donc Jacques Perry.
Vous, tu vas pas me faire la police du bon goût,
non, mais
Calif,
moi qu'on m'engueule sur des jeux de mots.
Qui vous engueule sur des jeux de mots?
Qui m'engueule? Quelqu'un juste à côté là à ma droite qui dit que je fais un jeu de mots le plus pourri du monde.
Ça c'est vrai.
Et quand
il
Libération
a jamais le droit
fait,
de faire des jeux de
quand
mots.
Quand Libé le fait.
Eh bien oui, oui. Ça dépend d'où on parle. Voilà.
Eh bien écoutez, il y a un humour à deux vitesses dans ce pays.
Oui, oui, monsieur Calif.
Et quand Ahmed Calif fait un jeu de mots, j'aurais fait Chuck Perry là tout à l'heure. J'étais excommunié pendant deux mois. Alors Libé, le grand Libé.
Mais vous croyez Chanouna? Vous croyez qu'il y a des excommunications ici?
Oui, je m'y crois.
Bon, des excommunions, pas des excommunications.
De toute façon, je comprends pas.
Qu'est-ce
le
qu'il y a d'autre là? Marie, Marie, moi, vous êtes notre invitée d'honneur, Marie Bonisseau.
Oui, moi j'ai une contre-enquête, parce qu'on parlait d'enquête de chercheurs. J'ai une enquête de chercheurs, mais ceux-là ils viennent de Pennsylvanie.
Et c'était dans le... Alors voilà, deux vitesses. Voilà. Ça serait à côté de chez nous, ça serait à Roanne, tout le monde s'en foutrait, mais la Pennsylvanie, évidemment, c'est chic.
Et ils ont cherché que sur 146 personnes, donc c'est moins dingue que le varan de Komodo. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est une étude qui dit que plus on a les narines étroites, plus on a une chance que nos ancêtres vivaient dans des endroits secs et froids. Parce qu'en fait, j'ai appris que les narines étaient un peu le climatiseur naturel du corps humain. Oui. Et que du coup, quand on étroite nos narines comme ça, ça réchauffe l'air et donc on a plus chaud.
Ça veut dire voilà, que si on a des plus... grosses narines, et ben on vive, nos ancêtres vivaient au bord de l'eau. Enfin, voilà. Dans un pays chaud. Quoi.
Ouais, à Komodo ou ailleurs. Voilà, je trouve ça intéressant pour en savoir plus sur nos ancêtres en regardant nos narines.
Et si on, a des grosses lunettes, si on a des grosses lunettes, est-ce qu'il y a un rapport avec les narines?
Ça, c'est la toundra, les grosses lunettes.
D'accord.
C'est les ancêtres de la toundra. Mais ils ont... c'est scientifique, c'est pennsylvanien comme information.
Non, je vois toute ma vie défiler, là. Et
c'est pas mal.
Je me demande pourquoi ce lundi, à 7h18, je suis en train d'entendre cette histoire de narines. Mais Tito, oui.
J'adore ce truc. Évolution d'un mot dans la langue française.
Dominique Régnier, ça va être très dur après.
Alors attendez, qu'est-ce que vous avez fait, Tito, là? Expliquez aux auditeurs qui ne voient pas ce que vous faites. Il a embrouillé la radio et les autres médias.
J'ai emmené mon petit cochon.
Il a un petit cocheton en plastique, il a fait couiner devant le micro.
Un cochon de Komodo.
Il a un autre cri plus
attendez,
fort.
Tenez-vous, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, Tito, vous êtes en train de faire couiner une petite marionnette en plastique de cochon. Dans quel but?
Dans quel but? C'est pour vous annoncer l'évolution d'un mot dans la langue française. Titine est devenue toutoune et qui toutoune est devenue rototoune. On dit maintenant, ma rototoune.
Oh non,
c'est quoi la source?
Je comprends pas. Attendez, je ne comprends pas ce qui se passe. Titine.
Titine est devenue toutoune. Et de toutoune, après, c'est devenu maroutoutoune. C'est pour ça que quand on aime bien quelqu'un, on voit maroutoutoune.
Mais personne ne dit ça, mais qu'est-ce qui se passe ce matin?
Mais si, bien sûr que si, tout le monde l'a dit.
Thomas Baumgartner, c'est bon.
Excusez-nous, si vous avez par miracle, vous nous écoutez, excusez-nous. Thomas?
Oui, non, dans le monde daté d'aujourd'hui, on nous dit que les studios Davout, qui sont 73 boulevard Davout à Paris dans le 20e, vont fermer. Célèbre studio d'enregistrement. C'est un article de Francis Marmande qui, en fait, plutôt que d'être triste parce que ce studio va fermer le 7 avril, nous explique qu'avant ce studio, à cet endroit-là, il y avait un cinéma de quartier, et qu'avant le cinéma, il y avait des cafés-concerts dans les cinémas de quartier, et qu'avant encore, c'était les guinguettes, et qu'après le studio, il y aura une crèche. Donc plutôt que de se désespérer, parce qu'évidemment, on n'enregistre plus les disques comme avant, ça a changé, les studios évidemment ferment les uns après les autres, ben, ça change, ça évolue et la géographie des quartiers, de certains quartiers évolue aussi et on continue quand même d'enregistrer les disques.
C'est un génie Francis Marmande, il écrit comme un jazzman, il a un style inouï, j'adore ce type-là.
Mais c'est beau parce que ça finit pas comme la chanson d'Eddie Mitchell, il y aura un supermarché ou un parking, il y aura une crèche, moi je trouve ça beau.
Et des logements sociaux.
Ça sera le dernier mot avant de retrouver Dominique Régnier. Ouais, merci cette histoire de titine alors là.
7h09, plus près de toi.
Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Edouard.
Ce soir, il y a le grand débat, le premier débat politique avec les cinq principaux candidats. Comment ils ont été choisis? Pourquoi est-ce qu'on a décrété qu'il y avait des grands candidats et des petits déjà pour la télévision?
Ben, c'est une drôle d'affaire, ça, qui, à mon avis, quand même, abîme beaucoup ce débat et ne contribue pas à aider la présidentielle à se dérouler correctement. Puisqu'il y a d'un côté 11 personnes qui ont bel et bien respecté les conditions permettant d'accéder à la candidature, et que ça, ce sont les règles de droit qui ont été respectées, et qu'il a été décidé, et en accord avec le CSA par TF1, donc de n'en inviter que 5, considérés comme les 5 plus importants. Je ne peux pas, moi, justifier ça, je n'ai pas d'argument pour ça, je trouve que c'est complètement incohérent, c'est assez choquant, hein, c'est même tout à fait étrange. Si 11 font 5, si le droit qui donne 11 candidats se transforme de fait en 5 candidats pour des raisons pratiques, en fait, hein, avec des arguments qui sont liés au fait que ces candidats, les 5, ont réussi des scores antérieurs significatifs ou bien sont dans les enquêtes d'opinion à un niveau significatif. Cela signifie que sur la ligne de départ, il y a une première rangée avec 5 candidats, et puis derrière les autres, voilà, et on n'est pas en train de promettre la possibilité de redistribuer les cartes, oui, comme une élection doit le faire à chaque fois.
Oui, ça n'est pas la télévision de décréter qui est fantaisiste, non, et non. Qui est sérieux. Il y avait eu des choses très gênantes à la télévision, je me rappelle du journaliste Gisbert qui se moquait de petits candidats ou de choses comme
c'est
ça.
C'est absolument irrecevable. Et il faut bien dire là-dessus, pour les électeurs, les 45 millions d'électeurs, ça ne peut pas être compris comme un argument recevable.
Thomas. Alors, c'est pas la télévision qui a décidé en l'occurrence, c'est le Conseil d'État. C'était la réponse là, de la présentatrice du journal de TF1. On a vu il y a quelques jours Nicolas Dupont-Aignan, de manière un peu théâtral, quitter le plateau après avoir expliqué que c'était incompréhensible qu'il y ait des grands candidats et des petits candidats. Et la réponse, c'est le Conseil d'État qui décide. Donc c'est quoi? C'est vraiment c'est la juridiction administrative qui décide ce genre de choses?
Non, non, non. Le TF1 peut tout à fait inviter 11 personnes. c'est pas... Voilà, on a devant des recours, on peut s'appuyer sur l'argument du Conseil d'État, enfin sur la décision du Conseil d'État, mais un média qui veut organiser un débat pour la présidentielle peut évidemment inviter tous les candidats qui se présentent à la présidentielle.
C'était formidable le truc de Dupont-Aignan, d'ailleurs ça dit un truc maintenant sur la télévision moderne, c'est-à-dire on vous écoute plus quand vous ne parlez pas, c'est-à-dire le départ, ouais, parce qu'Internet étant plus regardé que la télévision, ouais, le départ de Dupont-Aignan en refusant de répondre aux questions a beaucoup plus fait parler de lui que s'il avait répondu vraiment à des questions, ouais, sur le programme. Donc c'est la nouvelle technique, c'est de ne pas parler ou de partir.
Ouais. De venir pour partir.
Oui. Venir pour partir. Absolument. C'est votre chanson d'ailleurs, venir
pour partir.
C'est ma chanson,
oui. Elle n'a pas bien marché, hein, faut le dire la vérité. Quand même.
Qu'est-ce qui... Vous ne l'avez pas enregistré. Qu'est-ce qui peut se passer ce soir? Vous pensez qu'il peut se passer quoi là, pendant ce débat? Ça peut vraiment changer des choses?
Oui, ça peut changer parce que malgré tout, c'est un débat qui sera regardé, c'est un débat qui va être commenté. Les candidats peuvent chuter, c'est quand même extrêmement risqué. Vous êtes en direct, c'est l'un des deux débats avant le premier tour. Pour certains qui sont en position très favorable, comme Emmanuel Macron, bah, c'est évidemment le risque de faire une bêtise, de dire une bêtise. Donc c'est très très compliqué, ça dure longtemps en direct, encore une fois. Et puis pour d'autres, comme François Fillon, bien sûr, qui espère sur ce débat pour essayer de réduire l'écart, aujourd'hui considérable, c'est sans doute une des dernières chances. Oui.
Ils vont être debout, ça va être à l'américaine, on va guetter la petite provoque, la petite phrase.
Oui, apparemment c'est debout, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai vu des images de préparation de ce débat, et ils avaient l'air d'être... prévoir, c'est ça.
Moi, il m'épate quand même, parce que je ne sais pas comment pendant 3 heures on est debout, il n'y a pas un petit mot qui sort, il n'y a pas un petit dérapage, un énervement, un bafouillage. Moi, en 3 minutes de radio, j'ai déjà bafouillé 4 fois, je ne sais pas comment ils font.
Ouais, c'est compliqué. Et puis, on ne sait pas... si ça va être au fond considéré comme le moment où se discutent les questions de fond ou bien simplement une confrontation entre les candidatures. C'est une campagne où les Français, on le voit dans les études qui sont menées, ont le sentiment qu'on ne discute absolument pas des débats de fond, des sujets de fond. On ne discute pas des sujets qui préoccupent les Français. Donc c'est encore une fois, on a déjà abordé ce thème, Edouard Baird, ici, mais c'est encore une fois une campagne qui se déroule sans avoir lieu en quelque sorte. Et tout ceci fabrique un résultat qui pourrait être surprenant et ensuite des élections législatives qui pourraient bouleverser encore la donne.
Ils vont peut-être parler de choses intéressantes, ils ne sont pas obligés de se renvoyer des petites affaires à la gueule ce soir.
Non, mais il va y avoir quand même, il y a un enjeu ce soir. On sait, c'est une élection curieuse parce qu'on sait que Marine Le Pen sera au second tour. On le sait presque d'un savoir certain.
Déjà, non, vous pouvez pas. Non, si vous nous dites ça, déjà, j'ai plus envie d'y aller.
Oui, ouais, enfin, en tout cas, c'est pas les sondages, hein, c'est les élections qui ont eu lieu avant. Oui. Bon, d'un point de vue politologique, elle est au second tour. Elle peut ne pas y être, mais elle devrait y être. Ça veut dire que l'idée, c'est que face à elle, on est élu président. C'est une idée hasardeuse, mais c'est une idée. Et donc, la bataille, c'est pour la seconde place. Donc, ce soir, il y a une bataille évidemment très importante entre François Fillon et Emmanuel Macron. Il va y avoir là une tension particulière et François Fillon peut considérer que dans les débats précédents pour les primaires, on le sait, il a été plutôt bon. On attribue à ces débats au sein de la primaire sa victoire surprise et importante. Il doit compter aussi là-dessus. Mais l'écart aujourd'hui dans les sondages est quand même très important. Si les sondages ne se trompent pas, ça fait un écart considérable.
Merci. Oui.
Pardon, juste, j'ai une question, Dominique Régnier. Est-ce que ça fait partie, ce genre de débat, à ce moment-là, un mois avant un premier tour, des étapes cliquées, des étapes qui permettent une dynamique totalement différente par rapport à ce qui existe juste avant?
Généralement, les débats n'inversent pas les tendances. Ben, jusqu'à présent, il n'y a pas eu non plus tant d'élections et tant de débats que ça. Mais ce que l'on a observé, c'est ça. Et au fond, dans une élection normale, on pourrait dire que l'affaire est entendue. Hein. Maintenant, nous sommes dans un moment très particulier, à bien des égards, et c'est souvent commenté. Donc, il est bien possible que l'ordre soit modifié.
Tito, tu vas regarder ou pas ?
Non,
non, je n'ai pas la télé. Vraiment, le citoyen. Mais tu vas regarder des extraits ensuite. Beaucoup de gens font ça maintenant, regarder des extraits. Alors, on a dépassé de tous les temps. Donc, on ne met pas de musique. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est Manu qui réalise parce que Armelem est entendu dans une affaire de meurtre en ce moment. Manu, donc, qu'est-ce qu'on fait là ? On envoie le journal sans passer par la case pub.
On peut faire ça.
Ça fait plaisir. Voilà. Si tu peux envoyer la pub sur une autre radio, le journal de Victoire Fort aujourd'hui, ça chante. Merci Dominique Régnier qui part. Glorieux et solitaire.
Réunion des cinq gros ce soir. Les gros, ce sont Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, tous candidats à la présidentielle. Premier débat sur TF1 à 21h, duré près de 3h. Seulement 5 candidats sur les 11 en lice. Alors Nicolas Dupont-Aignan, indigné de ne pas avoir été convié, a porté plainte au Conseil d'État. N'est pas le général de Gaulle ou Michel Rocard qui veut. Benoît Hamon a fait le plein hier à Bercy. Le candidat du Parti Socialiste revendique plus de 20 000 participants à son meeting. Tout commence aujourd'hui, déclarait-il donc hier. Toujours quatrième dans les sondages à la traîne, Benoît Hamon portait un micro de popstar et c'est Christiane Taubira qui a été chargée de chauffer la salle. À droite, François Fillon a eu le courage de changer de slogan. Excite la vérité sur ses affiches. On pourra désormais lire François Fillon, une volonté pour la France. En Allemagne, Martin Schulz a été investi à l'unanimité à la tête du SPD. C'est donc lui qui affrontera Angela Merkel aux élections législatives. Ce sera en septembre prochain. L'ancien président du Parlement européen espère bien barrer la route à Angela Merkel qui brigue, elle, un quatrième mandat. L'assaillant de l'attaque de l'aéroport d'Orly samedi était sous l'empire de la drogue. L'autopsie a révélé des traces de cannabis, de cocaïne et d'alcool. Samedi matin, il était tué après avoir tenté de dérober l'arme d'une militaire de l'opération Sentinelle. Enfin, les élèves en classe de terminale ont jusqu'à ce soir 18h pour inscrire leurs vœux sur le site application post-bac. Ça va faire beaucoup de clics. 800 000 étudiants doivent passer par la plateforme.
Merci Victoire. Tito, la guitare est accordée ?
Elle est superbe.
La voix est prête.
La voix est là aussi.
Alors donc, pour ceux qui voudraient réaliser la météo flamenco chez eux avec leur guitare, on est en quoi aujourd'hui ?
On est en la mineure.
Allez, au
printemps.
Allez, tout le monde apporte ça.
Attention.
Sa guitare sous sa douche.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Alors accrochez-vous. Oui. Aujourd'hui, il ne pleut seulement qu'à Cherbourg, mais c'est Bretz. Alors Bretz. Maintenant, Bretz. Les températures seront à Agen de 4 à 12, à Amiens de 6 à 13, à Beauvais de 6 à 14, à Brest de 6 à 13 aussi, Corté de 8 à 18, Évreux de 6 à 14, Marseille de 8 à 18, Metz de 9 à 13, Paris de 8 à 14, Saint-Étienne de 6 à 17, Liverpool de 9 à 14.
Tito, vous êtes très rouge.
C'est normal, je viens de faire un...
Quand vous dites taureau, tout paye. Vous ne demandez pas au taureau de payer, c'est une sonorité.
Non, c'est pour utiliser quelques abréviations de certaines phrases.
Et pour jouer des dentales, les taux.
Voilà, les taureaux, les tout paye, les racatins.
Merci pour cette explication. Jacques Souvent n'est parti à Toulouse ces jours-ci. Il est dans les rues de Toulouse, ça nous change un peu.
Bah oui, mais je viens de rentrer parce que je suis avec le barman du Donjon Café. On va faire un petit café qui s'appelle Diego. Et il doit bosser.
Oui, c'est Diego, Donjon lundi.
On était dehors. Et Diego, vous m'indiquez un petit peu tous les quartiers de Toulouse, parce que moi, je ne connais pas, là.
Oui, tout à fait. Alors, les quartiers de Toulouse, vous avez le Capitole. Donc, ici, on se situe au Capitole, le quartier principal, la place principale.
La mairie, oui.
Mais ensuite, je pense que ce cher monsieur pourrait aller, par exemple, à Saint-Pierre, quartier Saint-Pierre, où il y a tous les bars, notamment le Tonton Pastissomètre. Je vous sers, monsieur. Deux cafés.
Il a une tête à aller au bar, oui.
Il a tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas trop dormi parce que, vu les yeux qu'il a.
Il peut aller au gigot à Président Wilson aussi,
oui,
de l'autre
voilà,
côté,
Wilson,
ouais, de
notre capitale. Il peut aller à Victor Hugo s'il a envie d'aller acheter des bons produits. Ouais. Il peut aller au Carme s'il a envie de visiter le vieux Toulouse. Il peut aller à Saint-Cernin s'il veut voir notre belle église. Où sais qu'on pourrait aller lui faire visiter.
Oh bah déjà, on va le laisser un petit peu à l'église, faire une petite remise en question. Dites-moi, Diego, vous êtes au Donjon Café, là, lundi matin. Donc là, vous, c'est quoi les horaires, en fait? C'est comment le roulement, là? Vous, vous faites alors, lundi
Moi, je fais du lundi, généralement au vendredi.
Ouais.
Je fais l'ouverture de 7h à 15h30, normalement.
Sans pause, alors?
Ah si, si, quand même, pas déconner, avec des petites pauses.
Des pauses club, des pauses quoi?
Pause club, pause café.
Pause dragouille, pause déjeuner, oui.
Voilà, il y a 15h30, c'est l'affaire, et on va boire un godet en terrasse.
Un godet en terrasse, et là, qui prend la relève à ce moment-là?
À ce moment-là, qui prend la relève? Personne, puisque j'ai normalement, soit mon patron, soit ma collègue, qui vient.
Ouais, il me faut des prénoms, il me faut des noms, des adresses, alors, des numéros de sécurité sociale.
Ça va être compliqué, vous savez, dans le monde des bars, on donne pas trop son numéro de sécurité sociale. Mais après, par contre, je vais pouvoir vous donner les noms, oui. Nina qui va venir à 8h30, elle.
Donc Nina, je
Nina,
note.
Qui,
hein,
collègue,
ouais,
qui s'occupe de la partie cuisine, on va dire.
Ouais.
Et à partir de 15h30, elle reprend la journée jusqu'à...
Elle bascule en salle à ce moment-là, 15h30, voilà. Nina bascule. Moi je dirais, elle arrive à 8h30, donc 1h30 après vous. Là voilà. On attaque, elle prépare le déjeuner. À ce moment-là, quand Diego à 15h fait sa pause, s'arrête, Nina rebascule en salle et j'ai plus personne en cuisine à ce moment-là.
Voilà, carrément. Et à 17h...
Mais moi j'ai plus personne en cuisine de 15h30 à 17h, qui arrive?
Mais personne n'arrive à 15h30.
Mais à 17h, il se passe quoi? Vous alliez me dire 17h.
À 17h, il y a une équipe de nuit qui vient reprendre le poste et qui travaille.
Mais c'est qui?
Alors en général, il y a Cédric, Tristan, un étudiant qu'on a.
Qui pas déclaré, oui. Dites-moi, donc à 17h, moi j'ai ma Nina qui en a marre parce qu'elle est depuis 8h30, elle est passée en salle après avoir été en cuisine à partir de 15h, elle a fermé sa suite. Donc 17h, la nuit commence à 17h, j'ai Cédric et Tristan qui débarquent. Ils débarquent en salle ou ils débarquent en cuisine?
Non, ils débarquent en salle. Après, il n'y a plus de cuisine. Après,
j'ai plus de cuisine le soir, j'ai pas dîné, vous faites que déjeuner.
Le soir, c'est les tapas. Ici à Toulouse, on fait les tapas ce soir.
Et les tapas ont été préparés par Nina entre 8h30 et 15h?
En général, elle fait des préparations.
On réchauffe.
On réchauffe.
On va être précis, Diego, et on sera bien. Vous arrivez à 7h30. Levé de rideau, ça va les gars, petit café, ça va tes conneries, t'as mal à la tête, ça va ta femme, tranquille, la mairie, le Capitole, qui va être maire, Cohen, qu'est-ce qui devient, tout ça. Bon, paf. Ensuite, arrive à 8h30, salut Elina, mon bisou, ah non, c'est pas 4-2, on est à Toulouse, calme-toi. Elle file en cuisine, vous la voyez plus, petite pause club, Nina, tu me gardes ma salle, j'ai personne parce qu'il est 9h30, tout le monde est parti bosser. Ensuite, à 15h30, salut, je me bats, allez vous faire enculer. À ce moment-là, Nina repasse en salle, elle a fait sa préparation cuisine, elle est pas seule longtemps puisqu'elle n'a qu'une heure et demie pour être seule parce que dès 17h, avec Cédric et Tristan qui est pas payé, Tristan il est étudiant. Alors Cédric, il est là, il réchauffe les tapas de Nina, puis tout le monde est content, quoi, c'est ça?
Exactement, tout le monde boit l'apéro et tout le monde est satisfait.
Gros bisous, merci Diego, on s'y retrouve, merci beaucoup de votre gentillesse. Bonne journée au Donjon Café.
Avec plaisir, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Je pense qu'il est allé se recoucher.
7h, 9h, plus près de toi.
Qui chante cette salsa magnifique?
Orchestra Baobab.
Oui, bah évidemment, vous c'est écrit devant vous. Bien, il a beau jeu de faire le cultiver, il a tout devant lui. Bonjour Mathieu Sapin.
Bonjour Edouard.
Mathieu Sapin, vous êtes l'auteur de ce magnifique livre sur Gérard Depardieu, cette bande dessinée qui s'appelle Gérard. Et alors moi, je voulais vous parler, mais Thomas Baumgartner a tellement d'excellentes questions là, Atman Khalif est surexcité parce qu'il aime son petit Depardieu, que je vais les laisser un petit peu.
Mais non,
vous l'aimez votre Gérard.
Mais je l'adore, voilà, et je l'ai retrouvé dans cette BD.
Non mais justement, au-delà de savoir qui le connaît ou qui ne le connaît pas, je pense une des mesures de...
Ah bah déjà, vous nous, voilà, un petit peu de gentillesse, il y a mon mémel qui était lancé, puis là, vous reprenez le truc un peu.
C'est ce qui montre la réussite, je pense, d'un livre, c'est l'enthousiasme qu'il génère en dehors du micro. Et ça n'arrive pas toujours que... Justement, pendant la chanson, là, pendant Orchestra Baobab, on a beaucoup parlé de, non seulement du livre Gérard, mais de l'acteur et de l'homme Gérard Depardieu. 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est le sous-titre du livre que vous publiez donc chez Dargaud, Mathieu Sapin, et qui est à la fois une enquête, qui est à la fois un portrait, quelque chose de biographique, et en même temps, c'est un de vos... caractéristiques des derniers livres que vous avez fait paraître. D'ailleurs, il y avait notamment Le Château, Enquête à l'intérieur de l'Élysée, c'est que vous apparaissez. Vous êtes non seulement dans le livre, mais vous êtes même sur la couverture.
Vous la pétez, c'est vrai, là je vous vois en couverture, il y a Gérard Depardieu. L'idée c'est d'être dans la photo, Mathieu.
Oui, d'ailleurs mon collègue d'atelier, Christophe Blin, m'avait dit, mais tu devrais te mettre des lunettes de soleil aussi, parce que ça vient d'une photo, la couverture est inspirée d'une photo.
Qui se trouve à la fin du livre.
Et j'ai décidé d'enlever les lunettes de soleil sur moi. Je les ai laissées sur Gérard Depardieu pour vraiment être dans la lumière.
Ah oui, c'est ça, vous voulez qu'on voit vos yeux. Alors, c'est une immersion, c'est un voyage immergé en Depardieu-y.
Immergé en Depardieu, oui.
En Depardie.
Bah, c'est-à-dire que quand on le côtoie, effectivement, la réalité prend une autre dimension. Quoi. Tout est possible avec lui. Il peut tout d'un coup décider d'aller n'importe où, d'appeler n'importe qui. Et il est, je trouve, assez omnipotent. Et donc, c'est un peu merveilleux. Oui.
Le grand tout. Hein. Isabelle Nanty l'appelle comme ça, le grand tout.
Bigger than life, comme on dit aussi. C'est
une tautologie.
Mais c'est vrai, c'est quand même. C'est pas,
il est pire et mieux.
J'ai l'impression que les Américains ont Superman, et ça y est, nous, maintenant, on a Depardieu en bande dessinée.
Ben oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est aussi. Il a retrouvé une forme de comment dire. Avec Obélix, là, c'est devenu. C'est une nouvelle. Il a incarné le personnage, maintenant, on n'arrive plus à imaginer Obélix autrement qu'avec Depardieu. Donc, oui, il y a une dimension. Oui, c'est notre super-héros, ouais.
Le premier contact avec Depardieu, comment ça s'est passé pour vous ? Vous l'avez rencontré dans le cadre d'un projet pour Arte, c'est ça ?
Oui, on avait appelé plusieurs dessinateurs qui ont tous décliné parce qu'ils étaient effrayés par le personnage.
Ils avaient peur qu'il les mange, en fait.
Oui, et puis il fallait être à l'écran avec lui aussi, donc c'est pas évident, on se dit qu'on va être écrasé. Et je me suis dit que c'était, j'avais rien à perdre après tout, à part ma vie. Mais,
c'est rien nos vies, c'est quoi.
Mais voilà. Et puis non, chez lui, je l'ai vu une première fois, mais il y avait beaucoup de monde et puis c'était assez rapide et pas très marquant. C'est plutôt la seconde fois où on s'est retrouvé à Bakou, donc pour ce projet pour Arte, dans son hôtel où l'équipe qui nous accompagnait nous a laissé tous les deux faire connaissance. Et puis immédiatement, c'est le grand bain. Il m'a proposé d'aller à la piscine sans maillot de bain, puisque je n'avais pas de maillot de bain, je n'avais pas prévu.
Et donc vous avez opté pour le slip ou pour la nudité ?
Slobard.
Le slobard, la slopette. Ouais. Slop.
Mais non, mais il est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a un contact immédiat. C'est-à-dire qu'il ne vous connaît pas, puis tout de suite, allez, bien, il vous tutoie, et puis
viens. Voilà. Et viens, allez.
Mais Depardieu, ça le fait ou ça le fait pas. Vous, ça l'a fait de suite, parce que Depardieu, il a ses têtes. Moi, je connais des gens, il aurait pu vous dire, mais non, ça se fait. Et là, comment ça s'est passé pour la BD, là ? Vous viviez des scènes avec lui, et puis le soir, vous rentrez, vous dessinez, ou alors c'est... Parce que moi, on a vécu, et Edouard et moi, on peut le dire, des scènes incroyables, et on avait envie de... Quand on les raconte, elles sont complètement fantasmées. Vous, c'était là, vous les fantasmiez un petit peu le soir en rentrant à l'hôtel.
D'abord, je dessine en direct. J'ai un carnet que j'ai pas amené ce matin avec moi. C'est pas grave, mais donc je dessine en direct. Et puis plus ça allait et plus ça l'amusait que je dessine. Et donc il prenait mon carnet, il regardait ce que j'avais dessiné. Donc ça créait un petit stress. Mais
et après, il en fait un peu pour vous parce qu'il est un peu comme ça, Gérard. Quand on commence à le filmer, il dit tiens,
il en rajoute. Ouais.
Je vais casser le bar. Je vais manger du kebab directement au truc ou je vais gifler telle personne.
Oui, c'est très vrai.
Il a censuré un petit peu des choses ou il vous a laissé une totale liberté sur ce que vous aviez envie de raconter.
Non, c'était open bar sur tout, sauf côté fils qui voulait pas trop que je montre trop de choses qui pouvaient voilà. Donc
mais il accepte qu'on en parle à la radio, manifestement.
Bah, il va pas nous dire non, il a quoi, il se mêle, il va pas, quand même, on peut parler de ce qu'on veut.
Non, vraiment, c'est une liberté, c'est même assez vertigineux parce que, en général, quand on suit quelqu'un comme ça de connu ou même pas connu, il y a toujours une protection. Ouais. Et lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il donne tout et c'est plus j'ai une responsabilité de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas. Pour être le plus honnête possible, quand même.
Alors, ce qui est assez génial dans ce livre, Mathieu Sapin, c'est que c'est chapitré, et c'est chapitré par voyage. Donc, on a l'impression presque qu'il y a un album par voyage. Et en fait, on est avec Gérard Depardieu en mouvement. Vous êtes obligé, vous étiez obligé, en fait, de vous intégrer dans ce mouvement-là. Y a quelque chose de très narratif, mais en fait, c'était comme ça que ça se passait.
Oui, puis alors lui, c'est très difficile de prévoir à l'avance. C'est-à-dire que c'est très instinctif, très dans tout d'un coup le coup de tête. Moi, j'étais habitué à des choses beaucoup plus organisées. J'avais suivi des journaux, le milieu politique où tout est très, très planifié. Et c'est ça qui était assez grisant aussi avec lui, c'est que c'est rock'n'roll en fait. Il y a vraiment.
Il décide de partir, il n'y a pas une armada d'assistants. On ne dit pas voilà la journée de M. Depardieu demain. Il dit allez, viens, on y va, allez, viens, on va prendre l'avion. Quelles sont les grandes heures, les grands moments dans le livre, Thomas et Mathieu, dans la vie avec Gérard Depardieu ?
Il y a quand même le sauna. Vous nous le racontez.
C'était surtout vers la fin du livre, j'arrive, parce que depuis plusieurs mois, je voulais aller en Russie. J'avais jamais mis les pieds en Russie, puis avec Depardieu, ça vient quand même à l'esprit. Et puis souvent, il déclinait un peu, il noyait le poisson, il dit oui, je sais pas trop. Et puis au bout d'un moment, je lui ai montré des pages, j'avais commencé l'album, je lui ai montré des pages, et là, ça lui a plu. Et c'est même lui qui m'a dit tiens, on pourrait faire un dessin animé. Il était parti dans un truc. Je vais t'emmener en Russie, on va rencontrer des gens, on va faire tout un...
Ça serait une bonne idée de faire un dessin animé là-dessus. Moi, je trouve que ça rendrait Gérard Depardieu complètement iconique, même pour les enfants. Il verrait cette grosse bedaine. Il est très attachant. Moi, je te dirais, comme je disais, Snoopy ou Gros Minet ou Tintin. Voilà. Puisqu'il voyage, il a des aventures. Il faudrait faire un dessin animé.
Moi, j'aimerais bien. Sauf qu'ils m'ont branché là-dessus. Et puis, lui et puis ses amis, enfin, son ami qui le met en contact avec la Russie. Et puis arrivé à l'aéroport de Moscou, je leur dis alors comment on s'organise pour ce dessin animé. Ah non mais c'est bon, c'est plus à l'ordre du jour. Alors je me suis dit qu'est-ce que je fous là. Non,
mais il faut appeler des producteurs parce qu'il y a un côté vraiment les Simpsons là. Moi je trouve.
Ce qui passe bien dans le livre et quand on a la chance de le croiser, c'est cette curiosité, cet enthousiasme qu'il a. Si en dehors de tous les trucs qu'on peut lui reprocher ou pas, il y a un goût pour les autres, pour les choses et pour vivre qui est quand même et qui passe beaucoup dans votre livre, je trouve.
Il s'intéresse vraiment aux gens. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il passe son temps à croiser des gens à des situations les plus improbables que les autres. On dirait qu'il cherche à lui-même à vivre comme dans une espèce de... Oui, c'est une aventure. Quoi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé palpitant, c'est que c'est vraiment l'aventure. Et il veut créer des émotions,
Il faut que ça soit intense tout le temps.
C'est épuisant.
Mais de lui-même, lui, par exemple, lui, il suffit à l'aventure. Parce que vous faites plein de petites chroniques où il n'y a rien. Il ne fait que manger, boire, rencontrer des gens, être curieux d'un restaurant où il veut changer le nom. Là, vous vous reprenez à un moment donné sur le nom où il vous dit Samiski ou Mouka. Vous reprenez, lui hurle comme ça. Ça, c'est vraiment typique de ce qu'on connaît de Depardieu. Il ne se passe rien, mais en mangeant, il vous hurle dessus pour un mot en reprenant Alexandre Dumas.
Mais c'est-à-dire qu'on sait qu'avec lui, il va forcément se passer quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Et en même temps, vous allez dans l'intime, Mathieu Sapin. Le début, si vous parlez avec lui de la mort, on vous demande de parler avec lui de la mort. Et puis, et vers la fin, il est question de l'angoisse aussi. Et donc, derrière tout ce mouvement-là, derrière le côté théâtral, le mouvement constant, vous arrivez à aller jusque quelque chose de très intime, puisque tous les livres autour de Depardieu n'arrivent pas à faire.
Mais c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est que je trouvais que c'était quelqu'un de très touchant. C'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment quelqu'un pour lequel on s'attache très facilement. Et je voulais montrer, dépasser l'espèce de personnage qu'il a créé pour atteindre un truc plus vrai. Ouais.
Alors, comme les gens très intenses comme ça qui vous prennent en otage un peu, tellement ils sont vivants, tellement ils sont excessifs en tout, est-ce que vous êtes devenu accro ? Est-ce qu'il vous manque là ?
Vous
en reprendriez bien une dose, hein, Depardieu. Eh oui, c'est ça. merci Mathieu Sapin. Vous allez continuer pour le revoir, de continuer à faire des livres sur lui, pour avoir l'occasion de repasser du temps avec lui. Vous allez sonner chez lui.
J'ai une bonne raison, mais j'espère. Ouais.
Et 5 ans, c'est beaucoup quand même, à mon avis, vous êtes accro là.
Il y a un truc qui est très réussi, c'est que vous avez vraiment à côté Laurel Hardy, vous avez deux corps très différents. Mmh. Parce que là, les gens, s'ils regardent bien le radio, ils voient que vous êtes très différent physiquement de Gérard Depardieu.
Vous n'êtes pas aussi petit que vous vous dessinez, mais ça c'est constant dans le Daniel Bobal.
Il y a même un hommage au fanfaron, vous voyez, avec Gassman et le Trintignant qui le suit comme ça, et qui vous embarque pendant 5 ans. Je ne vous souhaite pas la fin du film, mais je trouve que c'est vraiment...
Ça s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est signé Mathieu Sapin, c'est chez Dargaud.
On est vraiment dans les pattes.
T'es là, t'es excité. Merci Mathieu Sapin. Merci à tous, gros bisous.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi, je suis pressée là.
Lily, est-ce que le lundi c'est un jour pire que les autres jours de la semaine parce que t'étais tranquille le week-end ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Parce que le week-end tu fais quoi que t'aimes bien ?
Je sais pas, je me repose.
Ah, tu te reposes, t'es fatiguée Lily, t'as 10 ans, t'es fatiguée ?
Oui.
Et qu'est-ce qui te fatigue, Lily ? La vie te fatigue ?
Oui.
C'est vrai. La famille, les amis, l'école ?
Oui.
Tout ?
Pas tout.
Et qu'est-ce qui te donne de la forme ?
Le fait de dormir.
Ah, c'est vrai, t'aimes bien dormir. Et tu fais des rêves quand tu dors ?
Pas souvent.
Et quand tu en fais, c'est quoi, par exemple ? Il y en a que tu te rappelles ?
Non, pas en ce moment.
T'as fait des cauchemars, parfois ?
Oui.
Il y a quoi qui revient dans les cauchemars ?
Des choses qui me font peur.
C'est quoi, des choses réelles ou des monstres ?
Des monstres.
Qui ressemblent à quoi ?
La plupart du temps, c'est des gens dans les films d'horreur.
Ah, mais il ne faut pas les regarder, alors pourquoi ? Où est-ce que tu as vu des
pubs ? C'est des pubs.
Ah, il y a des pubs d'horreur ?
Oui.
Mais genre quoi ?
Je sais pas.
Pour le fromage ?
Non.
Ils font peur, des gens qui mangent du fromage. Je vois pas, moi, des personnages d'horreur dans les films Christophe. Vous avez vu des...
Non, j'ai pas de... Si, c'était même.
Ah, le monstre vert, là ?
Non, c'est la fille... Je sais pas trop le nom.
Qu'est-ce qu'elle fait?
En français, c'est le cercle.
Mais c'est la pub pour des films, c'est ça. Ah, c'est les bandes annonces des films.
Ah oui,
même les bandes annonces.
Ça aussi, ça me fait flipper. Oui.
Tout fait peur là. Je suis désolé, ma belle. Alors maintenant, tu fais des cauchemars là-dessus. Et vous faites des cauchemars sur le bonhomme vert de cet LM. Vous êtes
horrible.
Trop sensible, Christophe Médé. Heureusement, tu as la poésie pour t'en sortir, Lily. Et là, c'est un poème de Guy Foissy qui s'appelle « Il s'en passe des choses dans ma cité ». Je t'écoute, ma chère Lily.
Il s'en passe des choses dans ma cité. Il n'y a qu'à regarder. Moi, un jour, j'ai dit, j'arrête, je regarde. J'ai posé par terre mes deux sacs. Je me suis assis, j'ai regardé. Les gens venaient, les gens marchaient, les gens passaient, les gens tournaient, les gens filaient. Les gens glissaient, les gens dansaient, les gens parlaient, gesticulaient. Les gens criaient, les gens riaient, les gens pleuraient, disparaissaient. Il s'en passe des choses dans ma cité, il n'y a qu'à regarder. On voit de tout, on peut tout voir. Mais ce qu'on ne voit jamais dans ma cité, c'est un regard. Un regard qui vous regarde et qui s'attarde. Les gens naissaient, les gens vivaient, les gens mouraient. Et moi, je restais sur mon banc de pierre, encadré par mes deux sacs. Je regardais. C'est merveilleux. Partout où il y a des femmes, partout où il y a des hommes, partout où il y a de la vie. J'aurais dû me lever, leur tendre la main, leur dire « Salut, bonjour, j'existe. Et vous, vous existez ?» Je suis restée assis. Le plus souvent, c'est ainsi que les choses se passent. Guy Foissy.
Bravo Lily, bravo. Super, tu l'as très bien dit. Lily, reste avec nous pour le journal de Mademoiselle Fort et tu me dis si ça te fait peur.
21h ce soir, c'est l'heure du premier débat. À 5 semaines du premier tour, 5 candidats sur l'équipe de 11 s'affronteront sur le plateau de TF1. Il faudra avoir de l'endurance, près de 3 heures de débat. Attention aux varices, les 5 candidats seront debout et en cercle. L'émission sera divisée en 3 séquences. En 1, la société, puis l'économie et enfin l'international. Nicolas Dupont-Aignan, lui, ne décolère pas. Il fait partie des petits, les 6 autres, qui ne participeront pas au grand débat. Ce débat sera peut-être l'occasion pour Benoît Hamon de passer à l'offensive. Hier à Bercy, le candidat a taclé sans les nommer ses adversaires, sorte de remix du discours du Bourget. Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection, a-t-il lancé. Meeting jugé crucial, Bercy a débordé pour l'équipe de Benoît Hamon qui a comptabilisé 20 000 militants. L'enquête se poursuit après l'attaque à l'aéroport d'Orly samedi. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie du dossier. Un Français âgé de 39 ans a été abattu dans le hall 1 de l'aéroport après avoir tenté de dérober l'arme d'une militaire de l'opération Sentinelle. Il avait déjà 9 mentions sur son casier judiciaire dans des affaires de vol et de stupéfiants. L'autopsie a d'ailleurs montré qu'il était alcoolisé au moment de l'attaque et sous l'empire de cocaïne et de cannabis. Les gardes à vue des proches de l'assaillant ont été levés. À Washington, James Comey, le directeur du FBI, et Mike Rogers de la NSA sont entendus devant le Congrès pour répondre aux soupçons d'espionnage. Barack Obama a-t-il fait écouter Donald Trump et la Russie a-t-elle interféré dans la présidentielle aux États-Unis? Ces auditions apporteront peut-être un début de réponse. C'est officiel, l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz affrontera Angela Merkel aux élections législatives allemandes en septembre. Martin Schulz a raflé hier à 100% des voix la tête du SPD. Le parti social-démocrate pourra se mesurer dès la semaine prochaine à la CDU avec une élection test, une élection régionale dans le Land de la Sarre. Le SPD est pour l'heure favori des sondages. Au Pérou, des pluies diluviennes causées par El Niño ont tué 75 personnes. Les intempéries se concentrent dans le nord du pays. 70 000 personnes ont perdu leur domicile. En foot, le PSG a pu se rassurer après le match cauchemardesque face au Barça. Le PSG a battu l'Olympique Lyonnais 2-1. L'équipe reste à 3 points de Monaco en tête du classement. Et sur les pistes, la Française Tessa Worley a décroché la Coupe du Monde en slalom géant. C'est une première depuis 1993.
Merci Victoire. Ça t'a fait peur le journal, Lily, ou pas?
Non.
Eh ben voilà, ben alors nous non plus. Merci, je te laisse partir à l'école, bravo. On retrouve Jack souvent dans les rues de Toulouse. Bisous, bonne école, Lily.
J'ai appris ça, ouais. C'est poésie qui s'est accrochée dans le couloir.
Et alors, c'est à la fois un haut lieu de résistance et à la fois une école.
C'était un lieu de résistance. Quand les républicains espagnols sont partis en France, ils ont trouvé un lieu pour se rassembler. Et ils ont atterri ici, oui, c'est pas le seul endroit d'ailleurs.
C'est maintenant, c'est aussi le cave poésie, c'est une cave où on fait de la poésie, c'est quoi? C'est un lieu de...
C'est un lieu de rencontre pour faire de la poésie et pour voir des pièces de théâtre. Ouais.
Vous m'avez dit...
Il y a une école, il y a le cadastre aussi, et puis il y a les manifestations publiques, et les services des impôts aussi dedans, il me semble.
Ça, c'est réuni sur le même lieu. Et vous vouliez me montrer un truc?
Mais les poèmes qui sont dans le couloir.
c'est des poèmes qui sont accrochés avec des pinces à linge.
Ici, la cave poésie a son système d'affichage, là, en premier, avec sa publicité. Et comme chaque fois, tous les panneaux étaient encombrés, ils ont développé d'autres panneaux pour d'autres artistes, pour d'autres manifestations. Et puis après, ces panneaux-là, où je pense que tout le monde peut y participer, si vous voulez, vous pouvez rajouter des poèmes.
Hein. Alors attendez, regardez, il y en a plusieurs sur des pinces à linge. Vous voulez en lire un ?
C'est vous qui allez le lire.
Oh là là, là,
je suis un béton d'air et de poussière vibrée, désarmé par le moindre vent.
Bien, bien.
Il a bien lu.
Vous avez une bonne diction.
Oui, oui, hein.
Il a bien lu. Ah, ouais.
Et les poèmes sur des pinces à linge, est-ce que c'est l'idée de lier la poésie à une vie plus quotidienne qui serait liée au linge qui sèche, c'est-à-dire la poésie dans le quotidien ?
Oui, éventuellement. Oui. Je pense que ça va être lié à d'autres manifestations, mais qui ont été organisées dans l'école. Oui, mon fils. Oui.
Est-ce que, par exemple, oui, on peut imaginer que la poésie qui passerait à la machine, il y aurait la poésie à 40, la poésie à 60, et la poésie qui est plus tenace sur les textiles, il faudrait la passer à 90 ?
Bien, bien. Même à 90, au-delà, je ne pense pas que ça puisse...
Elle va rétrécir, sinon, oui.
Ah, oui, ça va, mais ça dépend du linge qu'il y a et qui est affiché.
Parce que si on met un alexandrin à 90, il reste combien de syllabes à la fin ? C'est ça, le problème.
Ouais, t'as vu l'heure, c'est pas fini. C'est encore l'été, on est bien, calme. Voilà, c'est tout le monde qui peut y participer. J'ai vu des parents y accrocher les poèmes de leur fils et même y accrocher les leurs. Voilà, après, il y a des poèmes connus hein, de Paul Éluard. Le mien, c'est Carême. Il y a d'autres auteurs.
Maurice Carême, oui, les enfants apprennent beaucoup. Oui. Il y a la poésie écrite et il y a la poésie lue. Alors, Edith, est-ce que vous avez l'impression que suivant les régions, suivant les accents, il y a des poèmes qui sont meilleurs avec l'accent du sud-ouest, du sud-est, l'accent parisien, l'accent d'autres régions ?
avec qui je parle là ? C'est du délire, là, ou quoi ?
Vous êtes... Je m'appelle Edouard.
C'est une voix qui m'est assez familière.
Eh bien, il ne vous a pas raconté déjà que vous êtes en direct à la radio ?
Ah non, il ne m'a pas du tout raconté, ouais.
Ah,
non,
vous...
mais il a une tête de filou.
Ah, c'est un filou, c'est un escroc.
Oui, oui. Oui, oui. Escroc, peut-être pas, mais c'est un petit renard. il fait fox terrier.
Il a une tête à terrier, il a une tête qui sortirait d'un terrier. Ça s'appelle donc la cave de poésie, c'est à Toulouse
La cave de poésie, oui, rue du Thor.
Rue du Thor, et donc...
C'est un ancien lieu de rassemblement de républicains espagnols.
No pasarán, cher monsieur, no pasarán.
Mais ils sont passés quand même.
Ils sont passés quand même, pasaremos, ils ont voulu passer, mais puis finalement, le temps emporte tout et dilue tout.
Hein. Pas encore, il y a des franquistes, il y a des républicains encore. Bon, après, ils ont fait la paix, ils se parlent, je les ai vus quelquefois s'insulter il y a une vingtaine d'années dans le quartier où j'étais. C'est encore vivant, ça fait pour ceux qui sont encore vivants, en tout cas.
Mais quand on s'insulte, c'est encore du dialogue. On ira rue du Thor à la Capoésie.
C'est vrai que c'est un dialogue. Oui, même quand il s'agueule, c'est du dialogue.
Et même le jour où il pleuvra des coups de pied au cul, et puis on sait bien qu'à Toulouse, même les mémés aiment la castagne là-bas. Ouais, au revoir.
Je vois que vous connaissez vos classiques.
Au revoir, cher maître, au revoir. Merci. Ils sont arrivés, ils se sont engueulés, ils se sont réconciliés, puis le temps passe et dilue les choses. Le temps comme une grande machine à laver. Nous raccommode, nous rapproche, nous nettoie et nous fait repartir à zéro dans la cave poésie de Toulouse, dans les tréfonds de la ville rose, se joue l'avenir, l'avenir qui lui-même est empreint du passé, les républicains et les franquistes aujourd'hui morts discutent là-haut, s'insultent, s'invectivent et puis nous. Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ? Ah.
Qu'est-ce que je dois te dire ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
De la francophonie.
Gérard Depardieu Atmen, vous avez raison d'en parler, parce qu'on est toujours avec Mathieu Sapin, l'auteur de Gérard 5 ans dans les pattes de Depardieu, aux éditions d'Argos, ce livre de pérégrination et Gérard Depardieu. Et nous avons enquêté, nous savons qu'il est en ce moment Depardieu en train de jouer à travers le monde un texte de Duras avec Fanny Ardant. Hier soir, il l'a joué à Tel Aviv en Israël. Et nous avons le restaurant où il a dîné, Joe, à la Cantina. Bonjour Joe.
Bonjour.
Joe, hier vous aviez Gérard Depardieu à table. Qu'est-ce qu'il a mangé ?
Alors, d'abord quelques salades.
Oui.
Deux, trois, quatre salades.
Ah oui, quand même. Donc c'est-à-dire comment il a demandé ? Il dit, mettez-moi
quatre salades.
Ouais. Oui, d'abord, il a une petite salade, ensuite c'est deux, ensuite c'est trois, après quatre. Hein, c'est toujours comme ça avec lui. Mmh. Ensuite il a pris deux, trois sortes de pâtes.
Oui.
Des raviolis à la viande.
Oui.
Des, ouais, un risotto aux champignons.
Ah oui.
Ah oui.
C'est que les mezzés, ça.
Et après.
Et là, il a commencé à avoir faim, là.
Il a attaqué, ouais. Donc après, juste après, il a pris quelques côtelettes, quoi. Une douzaine, je crois.
Et là, comment ça s'est... Alors, vous pensez, il a la dent creuse. Et là, les gens commençaient à s'attrouper autour de la table. Vous avez dû en voir dans les restaurations. C'est un des plus gros mangeurs que vous ayez vu, Joe.
Ah, tout à fait. Mais il a donné de l'appétit à tout le monde. Hein. Après, toutes les autres tables à côté, tout le monde a commandé plein. Moi ça m'a arrangé, tout ça.
Ben, c'est un miracle pour la restauration. Dites-moi,
vous avez
Joe.
Fait votre chiffre. Vous avez
dites-moi,
fait votre chiffre,
Joe. Sur les côtelettes, on était sur combien, là, vous disiez?
Une demi-douzaine.
On était sur six côtelettes après trois plats de pâtes et cinq salades.
Et un risotto.
Tout ça était rongé jusqu'à l'os, c'était travaillé à la main, il y avait une serviette.
Ah, tout à fait. Ouais. Ouais.
Est-ce que les couverts étaient intacts à la suite de ce repas gargantuesque?
Oui, on les a repris, on n'a pas eu besoin de les nettoyer. Quoi.
Oui, avec ses gros doigts, là, il vous a pris tout ça.
Mais... Il y a eu des desserts ou pas? Un peu de dessert?
Ah oui, oui.
Ah oui.
Ouais.
Joe, est-ce qu'on peut dire que Gérard Depardieu est un miracle pour la restauration?
Mais absolument, ouais. C'est vraiment. Moi, j'aurais aimé la voir tous les jours parce que vraiment, il donne un bon exemple.
Hein. Merci beaucoup.
Mais Fanny Ardant a pris un radis, vous m'avez dit. Fanny Ardant a pris qu'un radis, hein, c'est ça?
Fanny Ardant, elle a mangé quoi?
Deux feuilles de laitue.
Merci. Voilà. Merci. Très, très belle journée à vous, Joe. Faites-moi une musique retour plateau, Manu, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Voilà, à la hauteur de sa réputation. Oui. Ahmed Khalif, comment, vous qui connaissez très bien l'estomac des acteurs, vous êtes aussi chroniqueur mondain ici, vous connaissez bien les habitudes alimentaires de ces milieux du show business.
Oui, tout à fait. J'ai écrit un livre, Mon estomac, mon acteur.
Oui, voilà. C'était de Jean Gabin à Laurent Terzieff. Tous les types d'alimentation ont fait beaucoup de types
d'acteurs.
J'avais
un chapitre beaucoup plus gros sur Gabin que sur Terzieff.
Gabin, je crois que le ventre de Gabin était une chose. C'était une chaudière. Vous venez d'une époque où on ne mangeait pas de légumes, pas de poissons, c'était tout viande. C'était le signe qu'on avait réussi socialement.
Le vegan n'était pas de mise à l'époque.
Voilà. Tiens, je vois Tito, vous avez préparé un truc sur le jambon ibérique.
Eh oui,
c'est
alors,
quoi, là ?
Pour les amoureux et les amateurs de jambon, voici la nouvelle classification.
Quand le mec, il enchaîne direct, vous êtes formidable.
Ah ouais.
On part directement, comme
alors,
si c'était une rubrique.
Si vous mangez de l'ibérico de la race espagnole, il faut manger celui qui a la bague noire. Celui qui a la bague noire, c'est le 100% élevé en liberté, etc.
Voilà.
Il a mangé des glands à la fin de sa vie. Après les autres, on appelle ça les croisés. La bague rouge, on peut encore en manger, il est levé en liberté, mais bon, il finit pas sa vie en mangeant des glands. Et les autres, la bague verte et la bague blanche, eh bien, c'est carrément autre chose, la bague blanche et le vernis en industrie, etc. Donc je vous conseille Beyota, bague noire, bague rouge.
Merci Tito, parce que c'est vrai, face aux images de plus en plus cauchemardesques d'élevage industriel, j'ai vu récemment des images sur des élevages industriels de porcs, eh bien il y a des animaux qui ont vécu heureux avant d'être mangés, c'est cela qu'il faut manger, hein, Tito.
Exactement.
C'est ça.
Bague noire, bague rouge.
Et Jean-Pierre Coff disait lui-même, il ne faut manger que des cochons qu'on a connus de leur vivant.
Oui, et on en a connu beaucoup quand même.
Voilà, merci beaucoup. Méné, rien à rajouter sur ces moments
non,
de poésie.
Moi,
vous êtes bien
non,
vous êtes droit
bien
dans vos bottes.
Ouais, je suis carré.
Ouais, vous êtes là, vous avancez, vous tracez votre route. Moi, il y a une phrase sur Christophe Méné, il dit, c'est un mec qui trace sa route, il avance, il s'en fout. Il dit,
oui, après, c'est une petite route. Hein,
c'est un chemin vicinal, c'est pas une autoroute. Mais l'un dans l'autre, vous y retrouvez, puisque je sais que vous êtes proche des cinq candidats. Vous êtes conseiller de François Fillon, de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, de Macron. C'est assez malin.
Ah bah oui, c'est-à-dire que je me place.
Vous inquiétez pas, on va vous faire sauter vos PV.
Merci.
Tout de suite, vous avez connu Marie Missé qui nous faisait magnifiquement une sorte de revue de presse. Aujourd'hui, c'est Marie Bonisseau pour des raisons de vacances, je crois, très calmement.
Mais qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Non, Mabissé Bonisseau.
Et pour une fois, si vous le permettez, je vais commencer cette revue de presse par le programme télé à la une de tous les journaux ce matin. C'est l'ORTF, il n'y a plus qu'une seule chaîne, la première, TF1. Tout le monde sera devant ce soir pour le premier débat de la campagne présidentielle en direct.
À ce sujet, pardon, oui. Si jamais vous trouvez qu'il y a trop de choses sur les politiques, que ça vous angoisse, que vous avez l'impression d'entendre parler que de ça, faites comme moi. Là, j'ai le Parisien devant moi, j'ai rajouté une petite moustache. Là,
ça vous a fait du bien.
À Macron et à Mélenchon, je vais peut-être faire une fausse...
Il y a aussi Mordain Pourri sur Arte ce soir. Hein.
Alors, pardon Marie,
Mais c'est pas à la une de la presse.
Vous
n'avez
pas commencé quand vous avez déjà
c'est
interrompu.
À la une de votre cerveau. Alors donc, ce débat, cinq candidats, donc les plus hauts dans les sondages, 4 ont, Mélenchon, Macron à Montfillon et une haine, Marine Le Pen. Quelque part, cette émission, c'est un peu The Voice, confie un conseiller de Benoît Hamon au Figaro. Un jeu télé, renchérit un spécialiste de la com dans le Parisien, mais un jeu télé où il y aurait du fond. En tout cas, c'est ce que tous espèrent, qu'on parle non plus affaires mais programmes. La campagne commence ce soir, titre l'Opinion. Il y a beaucoup à y gagner car à 5 semaines du scrutin, les indécis n'ont jamais été si nombreux. Beaucoup à perdre aussi pour le petit nouveau Emmanuel Macron. Mais Cécile Cornudet dans Les Échos ne s'en fait pas trop pour lui. En 6 mois, celui qui promettait d'améliorer l'hygiène de la démocratie a intégré tous les codes du parfait politique. D'ailleurs, Macron aurait déjà préparé ses petites phrases pour le débat, croit savoir le Parisien. Le candidat d'En Marche sera assis sur un tabouret comme les autres, un séant exigé par Marine Le Pen, qui ne se sentait pas de rester debout pendant 2h30. Pourtant, c'est peut-être celle qui va se fatiguer le moins. Marine Le Pen est presque assurée d'être qualifiée au second tour. Se désole Dominique Seux dans Les Échos. Attention donc, le débat de ce soir ne doit pas se transformer en pugilat acrimonieux entre les 4 autres, condamnés à se battre pour la seconde place. Attendons de voir, puisque de toute façon, c'est du jamais vu. Un débat avant le sacro-saint duel de l'entre-deux tours. Un débat d'un genre nouveau dans un média de grand-papa, ironise Johann Hufnagel dans Libé. Depuis le temps qu'on disait que l'élection allait se jouer sur Internet, bah c'est encore raté. Comme si la 5e République et la télé cherchaient deux concerts à s'auto-régénérer en inventant un format inédit. Du coup, Libé boude le débat et préfère consacrer sa une à Chuck Berry. Chuck a péri samedi dans le Missouri, il avait 90 ans. Sa vie, son œuvre et ses nombreux plagiaires s'étalent sur 4 pages, donc dans Libé. Qui n'épargne pas les zones d'ombre du père du rock'n'roll. Dans les années 90, Chuck Berry aurait notamment été poursuivi pour avoir posé des caméras cachées dans les toilettes de son restaurant. Liberté
qui
Charnel.
Ne l'a pas fait. Ah pardon, excusez-moi.
On lui passe. Francky Vincent l'a fait dans son restaurant.
Ça s'est arrangé à l'amiable hein, avec les gens filmés.
Oui, bah, écoutez, Edouard.
Attendez, laissez ma réflexion. On reviendra sur le restaurant de Francky Vincent. Oui. Parce que c'était un rêve à réaliser avec un personnel de merde.
De merde hein.
Pardon,
il
pardon,
dans la merde. Hein.
Non mais c'est bien, parce qu'on continue avec la Liberté Charnel.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier qui l'a bien fait chier.
Bah, on sort, pardon.
Mais non, mais c'est bien parce que c'est une vraie histoire que raconte Francky dans cette chanson. Donc on parlait de liberté de restaurant, liberté charnelle, liberté amoureuse. C'est un petit peu plus classe dans Le Parisien qui célèbre l'arrivée de Madame de Lafayette au programme du Bac L 2017 avec la princesse de Montpensier. C'est la toute première fois qu'une plume de femme d'autrice est mise à l'examen du bac. Je dis autrice parce qu'à l'époque de Madame de Lafayette, on disait autrice, on disait poétesse et même philosophesse. C'est l'Académie française qui a masculinisé tout ça au XVIIe siècle. Les mots ont un sens, reste à les utiliser. Que l'on me jette ici le premier dictionnaire. Si l'un d'entre vous a déjà dit mot dièse au lieu de hashtag, info nuagique au lieu de cloud. Et pourtant, ces mots existent. Ils sont même dans le journal officiel. C'est le ministère de la Culture qui les invente pour combattre les anglicismes, ou plutôt les californismes de la Silicon Valley, comme dirait Alain Rey, le célèbre linguiste qui se veut optimiste dans la croix. La langue française a toutes ses chances dans le domaine du numérique. D'ailleurs, pour la semaine de la francophonie qui s'ouvre ce lundi, 10 mots de l'internet nous sont proposés. Mon préféré, télésnobé, c'est regarder son portable alors que quelqu'un est en train de vous parler. Quitte à être impoli, autant le faire en français.
Voilà.
Oui,
Hitman.
Oui, mais quoi?
Voilà.
Bande de malpropre.
Elle a raison, Marie Bonisso.
Elle a dit tellement de choses.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, j'ajoute qu'effectivement, en ce moment, c'est le début de la semaine de la langue française, mais aujourd'hui, c'est la journée de la langue française dans les médias. Et dans quelques minutes, dans cette matinale, on sera en lien avec Jean Prouveau qui a écrit Nos ancêtres, les Arabes, sur les questions linguistiques françaises et comment les mots français viennent de
comment vous pouvez savoir.
Et c'est une journée spéciale sur Nova.
Au téléphone avec cette personne.
Je le suppute.
Mais pourquoi? Comment vous arrivez à
rester la langue française?
Pourquoi il est calme? Vous êtes calme, Thomas Baumgartner, vous avez un calme, vous ne sortez pas de votre calme. Merde.
Monsieur.
Quoi?
Il faut vous calmer.
Oui, pardon, je peux m'excuser.
C'est un jeu d'acteur.
Mettez de la musique.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
Chuck Berry était l'inventeur de l'intro musicale, guitarisée rock'n'roll, qui faisait qu'on reconnaissait tout de suite qu'il allait y avoir un rock, et les gens se précipitaient sur la piste. Voilà, c'est sur Johnny Be Good, sur You Never Can Tell, immortalisé
c'est
dans...
C'est ce qu'a dit John Lennon. Le rock'n'roll a un autre nom, c'est Chuck Berry, qui vient de mourir. Journal. Où est Victoire pour le journal de 8h30 ?
Il est 29 et 55 secondes.
Ben oui.
Ben oui. Non, il est, là j'ai 8h30 et 17 secondes.
Il y a deux horloges avec deux.
Quand le journal n'arrive pas, quand on attend l'information, quand on se demande si ça aura changé, si ça va être différent, quand on attend quelque chose d'autre, quand on attend quelque chose de nouveau, quand on se dit que c'est pas possible, que ça reste comme ça, que ça reste pareil, que ça soit comme hier, comme c'était prévu, comme on attendait, quand on se dit qu'il y a une demi-heure, on nous l'avait dit. C'était le journal de 8h, le journal de 8h30. Quoi de nouveau ?
À 5 semaines du premier tour, 5 candidats et un débat. Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, debout et en cercle, vont s'affronter ce soir à 21h sur le plateau de TF1.
Vous avez dit les tons, il y a des « on » que vous avez prononcés différemment. Ça m'a énormément gêné,
vous
votre manipulation.
Senti. Vous l'avez senti, il y a un « on » lequel s'est détaché.
Je ne peux pas le dire, mais il y a un « on » qui était.
La France vous le réclame.
Il y a eu des « on », des « on » et des « on ».
L'émission, en tout cas, sera divisée en trois séquences, société, économie et enfin internationale. Nicolas Dupont-Aignan fait partie des petits qui ne sont pas conviés à l'émission. Il ne décolère pas, il a d'ailleurs porté plainte au Conseil d'État, sauf que la stricte égalité du temps de parole ne s'applique qu'à partir du 10 avril. C'est la date officielle du début de la campagne. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête après l'attaque d'un militaire samedi. C'était au Hall 1 lorsqu'un Français âgé de 39 ans a été abattu. Il était connu des services de police pour des faits de droit commun. L'autopsie de l'assaillant a en tout cas montré qu'il était alcoolisé au moment de l'attaque et sous l'empire de cocaïne et de cannabis. Les gardes à vue des proches de l'assaillant ont été levées. Elles concernaient son frère et son cousin. Une manifestation quelque peu houleuse. La marche hier contre les violences policières appelée Marche pour la justice et la dignité a réuni hier plus de 7000 personnes place de la Nation à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Le rassemblement quelques semaines après l'affaire Théo a été émaillé de quelques échauffourées entre quelques participants cagoulés et des forces de l'ordre. Barack Obama a-t-il fait écouter Donald Trump et la Russie a-t-elle interféré dans la présidentielle aux États-Unis ? Première audition devant le Congrès des directeurs du FBI et de la NSA, c'est la première fois que des responsables du renseignement américain répondent publiquement à ces questions. Le Brésil, à nouveau secoué par un scandale, il touche la viande avariée sous fond de corruption. La police a démantelé un réseau de ventes avariées impliquant des inspecteurs des services sanitaires brésiliens. Réponse du président Michel Temer, il a reçu les ambassadeurs d'une trentaine de pays, tous importateurs de viande brésilienne, pour les rassurer, bien sûr. Et puis cette étude de l'IFOP publiée aujourd'hui, la consultation des sites pornographiques s'est en hausse chez les 15-17 ans. Plus d'un jeune sur deux a déjà surfé sur un site X. En tout cas, ils ont jusqu'à ce soir, les jeunes, ceux, les élèves en classe de terminale, pour se rendre sur le site application post-bac. Et c'est eux qui vont permettre de m'inscrire.
Quel est le lien ? Ça va pas,
non ? Le lien, c'est Internet.
Non, victoire, victoire. Alors voilà, entre trois sites porno et le bac, enfin
voilà.
Écoute.
Il y a peut-être un lien.
Alors, avec un joli sourire.
Oui, oui, mais ça ne peut pas tout faire passer, si vous voulez. Merci. Victoire, vous aviez un truc sur le sport ou pas ?
J'ai pas de truc pour le sport, mais je peux vous dire que Tessa Worley a gagné le slalom géant hier. Et c'était une première pour la France depuis 1993.
Et que Lyon a perdu.
Et que Lyon a perdu.
Le Paris Saint-Germain.
Lyonnaise, je suis un petit peu énervée.
Ah, vous êtes lyonnais tous les deux, comme
oui,
Christophe Méné.
Enchanté.
Oh, bah, Tito, vous savez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ? Tito, vous avez envie de refaire votre métier. Météo de 7h30 en mieux ?
Oui, il me manque un petit peu mieux.
Alors un petit peu de météo avant de retrouver Jacques dans les rues de Toulouse. Merci.
Attention, Tourou tout paye !
Tourou tout paye !
Tourou tout paye !
Allez d'accord.
Allez, Tourou tout paye, tout paye, tout paye ! 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 Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, il pleut seulement à Cherbourg, à Metz et à Brest. Par contre, les températures seront à Angers de 7 à 13, Avignon de 9 à 22, Bordeaux de 9 à 15, Boulogne-sur-Mer de 6 à 11, Laval de 6 à 13, Limoges de 8 à 13, Pau de 8 à 16, Sète de 9 à 14, Vienne de 9 à 18 et Tours de 8 à 14.
Toulou tout paye. Il y a des cailloux qui roulent dans ton accent un peu quand même.
Toulou tout paye.
Toulou tout paye.
Tout le temps paye.
Tout le paye.
Check souvent.
Oui, sur ça. J'ai pas du tout imaginé aller là.
Non, mais pas de soucis. Venez à l'école avec moi.
À l'école?
Oui.
Bon, moi j'étais avec Salomé dans la rue. Elle devait prendre son bus. Le bus est arrivé.
Mais allez-y, montez dans le bus. Vous êtes dans le bus. Vous êtes où?
On est où?
On est là, Compense Casarelli. Juste à côté d'Arnaud Bernard.
En fait, voilà, on parlait de cette place. Arnaud Bernard, il paraît que ça craint.
Non, ça craint pas du tout.
Qu'est-ce qu'il a fait, Arnaud Bernard, pour mériter sa place? Il a fait quoi, Arnaud Bernard, dans sa vie? Parce que moi aussi, je veux ma place.
Alors là, vous allez me le dire.
Mais non, mais moi, c'est une place, c'est un lycée, c'est quoi?
C'est une place qui est juste au bord du centre-ville et qui est collée à Compense Casarelli et Jeanne d'Arc. Juste à côté de la basilique Saint-Sernin. Et c'est un quartier populaire.
Est-ce que le cœur de Toulouse bat place Arnaud Bernard?
Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? On vend des cigarettes.
Il a dû faire des trucs bien, Arnaud Bernard, parce que quand on fait des trucs mal, on n'a pas de place à son nom.
Ouais. Alors je sais pas.
C'est dans mon livre sur les phrases inintéressantes.
Ah, mais celle-là.
Vous êtes en bus là? Vous êtes dans un bus?
Oui, dans le bus.
Qui a dans le bus? Vous êtes nombreux?
Oui, ça va, mais les gens sont en train de monter, là.
C'est quoi l'ambiance? Les gens se parlent, ça fait la tête, ça sourit, c'est quoi?
Ah oui, c'est grosse ambiance, c'est grosse stuff.
C'est grosse stuff, on y va.
C'est un bus de femmes, il n'y a que des femmes.
Mais non, pas du tout.
Ah bon, du tout. Où est-ce que vous avez des embrouillez tout.
Ah oui, il y a un homme là-bas. Une femme qui lit un livre, une autre qui est en train de faire un SMS sur son téléphone portable, une autre qui est en train de se pincer les lèvres avec son index, et puis deux autres à côté qui sont vraiment le regard tourné vers l'extérieur quand on est dans un bus le matin, on regarde les paysages passer.
Bah c'est le matin, c'est normal, comme tout le monde à Paris, non?
Et mademoiselle, vous êtes pour la mixité dans les bus ou vous pensez qu'il devrait y avoir des bus féminins, des bus masculins?
Ah non, mais je suis totalement pour la mixité dans les bus. Qu'est-ce que c'est que cette question?
Ah, mais on a le droit de se poser toutes les questions. L'important sont les réponses. Les questions, elles se posent toutes. Il n'y a aucun tabou sur les questions.
Moi, je veux savoir, Arnaud Bernard, c'était qui?
Alors, Arnaud Bernard, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la ville de Toulouse, puisque en 1918, après, vous savez, à la fin de la Première Guerre mondiale, Toulouse, qui est la seule ville de France qui a été envahie par des Allemands, puisqu'ils étaient passés par les Pyrénées sans s'arrêter du tout dans les Pyrénées. Et tout à coup, il y a une sorte de communauté allemande et il y a eu la ville libre allemande de Toulouse qui a duré de 18 à 1920. Et s'apercevant de ça, Claude Bernard qui passait par là, Arnaud, oui, mais il s'appelait Claude à l'époque, a dit d'abord je vais changer de prénom et ensuite il s'est dit je vais bouter les teutons hors de Toulouse et il est allé seul avec son ancien prénom. Et son prénom est parti avec les Allemands et il est resté.
Ah, d'accord, ouais, carrément, ils ont tout pris, même le prénom.
Voilà.
D'accord.
Ça va, sinon vous allez à l'école, vous êtes prof, vous êtes quoi?
Oui, non, je vais dans une école de médecine naturelle. Et du coup, là, j'en suis à
Purpan, non?
À Purpan, voilà,
Atman connaît. Oui. Alors, il y a la médecine naturelle, il y a la médecine artificielle, il y a quoi comme type? C'est quoi la différence?
Tout type de médecine, la médecine de l'espace aussi, tout type de médecine.
Vous allez soigner les gens avec quoi? Des plantes, du porc, avec quoi?
Ouais, des plantes et de la bonne humeur.
Voilà, la bonne humeur naturelle. Votre bonne humeur est naturelle, c'est vous ça. Êtes superbe, souriante, vous êtes gouléante, vous êtes mon petit soleil de ce matin.
Ils sont adorables,
On vous embrasse très fort et embrassez Jack souvent de notre part.
Eh ouais.
Pas de soucis, je lui fais une grosse bise.
Joyeux journée. Toulouse à vous.
Merci.
Je vois ce qu'on fait maintenant. Alors, je
sais. Bah, si, c'était bien.
De la musique. On est bien.
On essaie de se renseigner sur Arnaud Bernard.
Arnaud Bernard, c'était le nom d'un pote à moi. Ah ouais. Il vit aux États-Unis maintenant, ça se trouve, c'est lui. Il a fait des trucs bien, il est avocat, le mec.
Et tu penses qu'il aurait une place à Toulouse?
Imaginons que ça soit quelqu'un qui ait fait des choses magnifiques pendant la guerre. J'ai honte.
Oui, vous avez tout ça. Va...
Mais t'as pas de honte à avoir. Personne connaît Arnaud Bernard. Il a pas dû faire des trucs
super. Mais c'est ma nature, la culpabilité, Christophe Méné. Vous n'y pouvez rien.
Mais il n'y a plus de place Pétain en France?
La place Pétain, si. Il y en a, je vous dirai où.
On peut mettre quelque chose, histoire que ça va glisser très très bien.
Chaque année, vous alliez porter des fleurs sur la trompe de Pétain à l'île Dieu, à Atman Kelly.
Oui, c'est vrai, mais personne n'était masqué.
Ça y est,
qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va parler
de lui. Il a fait beaucoup de conneries, Pétain.
C'est la journée de la francophonie. Il y a un magnifique livre qui est sorti qui s'appelle Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit. Est-ce qu'on en parle après une page musicale ou est-ce qu'on nous force à mettre de la pub?
On va mettre un petit peu de pub quand même.
Un peu de pub.
Mais la bande-annonce était très bien.
Soyez gentils. Écoutez cette pub. Prenez un crayon. Notez les adresses et les marques et allez acheter qu'on passe à autre chose après.
Nova, plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
Voilà, pardon d'interrompre ce couple de chanteurs qui ne m'en voudra pas. Il y a Kid Francescoli qui vient en live tout à l'heure. Mais arrêtez de lui donner. Je peux faire parler quelqu'un sans qu'on lui mette un micro, un casque pendant des heures. Il y a juste monsieur qui passait par là.
Oui,
je lui demande pourquoi il vient écouter le groupe et ce qu'il fait dans la vie.
Alors, je suis professeur de PS et je viens écouter le groupe parce que j'ai vu qu'il y avait des places gratuites à Radio Nova.
Voilà.
Pour écouter de la musique le matin avec des croissants.
Voilà.
Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour venir là.
Alors arrête, Atmen. Et dis donc, vous êtes prof d'éducation physique et sportive, vous êtes prof où ?
Je suis prof à Pantin.
Alors vous n'êtes pas vieux, vous avez l'âge de vos élèves ?
Presque.
Quel âge ils ont ?
Ils ont 18 ans.
Et vous ?
J'en ai 24.
Et vous leur faites faire quoi ?
Je leur fais faire de la musculation.
Sérieux ?
Ouais.
Ah bon ? Mais quoi, des pompes ? Mais non.
Si, si.
Mais il faut les détendre.
Des petites tablettes de chocolat pour les mecs.
Tu arrêtes. Hein.
Ben oui, mais comme tu sais déjà lancé.
Non, mais par exemple, quoi ? C'est quoi, par exemple, la cour de PS ? Bah tiens, on fait un tout petit peu de PS.
Allez, un petit peu de PS.
Non. Déjà, à l'école, j'aimais pas.
Hein, si on a le temps.
Allez, debout.
Tout le monde debout.
Tito, sur un fond arabo-andalou, la guitare. Allez.
Alors, le début d'un cours de PS, on commence toujours à part un petit peu de respiration.
Reste loin. Oui, respiration. Cours d'EPS, chez vous aussi. EPS arabo-andalou.
C'est important de faire des étirements en tout début de séance d'EPS. Donc on commence toujours la tête, donc droite, gauche, un petit peu, oui. Les épaules.
Les épaules.
Toujours bien pensé, le bassin, on fait des tours de bassin comme ça.
Aïe, top. Je me suis fait très mal, il faut passer à l'invité. Merci, quel est votre prénom ?
Émeric.
Merci Émeric. Thomas, nous sommes au téléphone Edouard. Avec Jean Pruvot, je crois.
Nous sommes au téléphone avec Jean Pruvot qui sort un livre, qui publie un livre chez La Teste, Nos ancêtres les Arabes, parce que notre langue leur doit, vous l'avez dit il y a quelques minutes, le titre n'a pas changé. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est la journée de la langue française dans les médias et il y aura sur Nova une série de reportages dans le Grand Mix du matin, le Grand Mix de l'après-midi et puis un Nova Club spécial autour de la langue française avec un blind test qui pour l'occasion va s'appeler
un blind test
à l'aveugle.
Voilà.
Et donc et ce livre est paru et effectivement on se dit que les mots dans la langue française ont des histoires variées, différentes, des parcours, et là précisément sur la langue, sur les mots qui viennent de l'arabe, il y a de multitudes de chemins. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour.
Parce qu'effectivement, bonjour. C'est ce qu'on comprend dans ce livre-là, c'est que les chemins ont été à plusieurs étapes et ça remonte parfois à 500 ans.
Eh ben oui, en fait, il y a eu d'abord les croisades qui nous ont rapporté quelques mots, puis il y a eu les conquêtes arabes sur le plan religieux, puis surtout la voie savante, les bibliothèques, l'école universitaire, à Cordoue notamment, et puis il y a eu les voies commerciales. Alors là, c'est énorme, si on y réfléchit, le matin, quand on part au marché, acheter des pastèques, des artichauts, des aubergines, des épinards, de l'estragon, et puis qu'on prend, pourquoi pas, un peu de sirop, de la limonade, de l'orangeade, du café, du sucre, et bien, on parle arabe. Ce ne sont que des mots.
Quand on prend le petit déjeuner avec vous, on parle arabe avec la tasse, l'orangeade et le croissant.
Et oui, et si on met zéro sucre, bon, zéro c'est un mot arabe, oui. Et sucre c'est un mot arabe aussi. Oui. Donc c'est vraiment très présent, c'est pareil aussi dans les sciences. Hein.
Mais ce sont des parcours, Jean Pruvot, ce sont des parcours, des mots, des parcours à étapes, il n'y a rien de direct, ça prend vraiment son temps.
Oui, c'est-à-dire que la langue arabe a été une langue qui a en quelque sorte récupéré tout ce qui se trouvait en Orient avec beaucoup de talent, et au moment de la conquête arabe, ces mots se sont diffusés dans tout le bassin méditerranéen et sont passés par l'italien, par l'espagnol, et nous arrivent. Alors certains sont encore très visibles, hein. Algèbre, algorithme, on sent le al qui est l'article, chiffres et zéros sont des mots arabes, et pour rester dans le domaine scientifique, chimie, alchimie, azimut, zénith, nous voilà avec des mots savants, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et vraiment mettre en relief.
Jean Pruvot, quelqu'un qui serait raciste ou qui serait, par exemple, sur le site internet français de souche, qui voudrait échapper aux mots d'origine arabe, il serait emmerdé ce type-là. Il aurait pas accès à grand-chose.
Je ne vous le fais pas dire parce qu'en fait, c'est la troisième langue d'emprunt. C'est-à-dire qu'une fois que la langue française a été constituée, il y a eu la langue ensuite anglaise qui est très forte quantitativement, mais c'est la langue arabe qui est la troisième langue d'emprunt après l'anglais et l'italien. On a 500 mots et des mots extrêmement courants. Magasin, tarif. Votre épouse achète une jupe de coton. Bon, elle parle arabe, jupe coton. Un gilet, on parle arabe. Un gilet de satin, on parle arabe. Un caban qu'on croit breton, on parle aussi arabe. Et même une jaquette qu'on pose sur le divan, on est encore en langue arabe.
Alors, il y a les emprunts nécessaires, Jean Pruvot, les emprunts de luxe. Vous distinguez les deux, c'est quoi la différence ?
Oui, alors l'emprunt nécessaire, c'est quand on n'a pas le choix pour un mot. Par exemple, le mot orange, on n'a pas d'autre mot. Hein, c'est le mot générique. Bon, maintenant, quand j'ai le cafard, c'est un mot arabe, avoir le cafard. Je peux avoir le spleen, c'est un mot anglais. Mais avoir le SAM, c'est par exemple un emprunt de luxe, il faut être un peu jeune et avoir quelques formules comme on en a eu dans la publicité. Si tu n'as pas le SAM pour te ramener quand il y a une fête et qui est sobre, ben, tu as le SAM.
Et donc, c'est une histoire qui continue aujourd'hui, justement.
Ah ben oui, c'est-à-dire que la dernière voie d'emprunt, c'est le rap, c'est les jeunes qui utilisent énormément de mots correspondants, et donc on va se retrouver avec le SAM, je viens de le dire, wesh, bien entendu, mais il y a aussi d'autres mots comme kiffer, par exemple. Mm-hmm. Alors, nos grands-parents disaient kiff-kiff bourricot, on le dit encore, ça voulait dire pareil, pareil, et les jeunes, et nous-mêmes maintenant, on a tendance à dire de manière un peu amusante, c'est un emprunt de luxe, effectivement, c'est kiffant.
Oui, on dirait aussi qu'il y a des mots qui ont été choisis pour leur truculence, par exemple Nouba, des choses qui ont été, vous voyez par exemple sur la médecine qui s'appelait Medicas, comme vous dites, il a été changé par Toubi parce que justement les Medicas n'étaient pas très efficaces à l'époque, le mot était un peu comme quand
les sonorités
quand
Maboule.
Quand le RPR a changé de nom, on a appelé l'UMP parce que ça marchait pas très bien, on dirait que le mot médecin a été changé par Toubib pour la même raison.
Eh bien oui, c'est-à-dire que, bah, d'abord, merci de m'avoir aussi bien lu, mais sur chacun des 500 mots, je raconte l'histoire, en fait, et comment un mot l'emporte. Nouba, bon, a eu un certain succès, et on a comme ça une évolution des mots. C'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire, c'est l'histoire des mots, on porte en nous, sans le savoir, à travers le mot café ou orange. Orange aurait dû se dire arrange. Hein, et c'est parce qu'il y avait la ville d'Orange, qui n'a rien à voir avec les agrumes, qu'on a appelé ça Orange. Voilà.
Mais tout ça est un mélange, ça, on l'a bien compris.
Jean Pruvot, vous avez une voix formidable. D'où vient cette belle humeur du matin, cette voix sympathique?
Écoutez, c'est pathologique, c'est peut-être les jus d'orange.
Je pense que vous êtes arabe, moi.
Merci Jean.
Nos ancêtres les Arabes, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous.
Le livre est truculent, il faut le lire.
Merci beaucoup. 7h-9h, plus près de toi.
Nova.
Plus près de toi.
Quelle physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Il faut le dire qu'il joue jeudi. Alors je suis au sein du live, je suis dans le grand café Nova. Voilà, il y a du monde. Kid Francescoli. Ils sont deux, dont Mathieu Yossine qui est là.
C'est moi.
Et alors mademoiselle, oui, votre nom n'est pas du tout dit, pourquoi?
Julia Minkina. Je sais pas.
C'est inacceptable. C'est encore de la misogynie, Rudy Aboab.
Exactement.
Vous ne citez pas tous les membres du groupe Kid Francescoli.
Évidemment.
Alors, vous jouez jeudi soir, vous jouez où?
Au Café de la Danse.
Le Café de la Danse, c'est
complet,
à Paris.
C'est complet. Et vendredi, tu sais où ils seront?
Non.
À Brest, avec nous.
À tes soirées magnifiques, Zébrel, les nuits Zébrel, à Brest.
Tout à fait.
Cette belle ville de Brest. Alors, présente-nous ce groupe, vous allez écouter, c'est des belles présentations toujours.
Écoute, j'espère. Alors, nous célébrons, tournée vers le passé, les 20 ans du micro d'argent d'IAM. Kid Francescoli et sa bande de potes sont eux plus ancrés que jamais dans le présent et placent depuis quelques années Marseille comme la capitale d'une nouvelle scène qui régale, redonnant ses lettres de noblesse à la pop française. Et Mathieu Hossin, alias Kid Francescoli, en est le meneur de jeu, comme ce poste si noble au football où il faut savoir allier élégance, grâce, vision et magie créative. Meneur de jeu de sa propre histoire d'amour qu'il met en musique, en images et en scène depuis maintenant quelques années, exercice ô combien casse-gueule, mais délicieusement réussi avec pudeur et douceur. Cette histoire d'amour entre la Chico Gans, Julia Minkin, ici présente, et le Kid de Marseille. Nous aimons, vous aimez sur Nova, la suivre, l'écouter, la danser, la fredonner depuis maintenant 3 ans, tel un roman photo sonore. Après la rencontre, le coup de foudre à New York, clippé façon Cassavetes, la suite de l'histoire se raconte aujourd'hui sur le nouvel album Play Me Again. Le chemin s'est inversé, Julia est devenue marseillaise et l'amour est devenu une liaison amicale, sonore et qui s'est élevée.
Superbe innovation pour notre ami Rudy Aboab. Mathieu, ça vous va comme
attention? C'est parfait, c'est parfait.
Bon, ben c'est bon, on vous écoute.
Ils vont nous interpréter tout de suite un titre du nouvel album. Le titre, c'est Command Line. Vous l'entendez depuis quelques jours, semaines, sur Nova.
Je me l'ai bien slamé, celui-là.
Julia, Mathieu, Kid Francescoli, c'est à vous.
Magnifique Kid Francescoli. Merci à tous. Bonne journée. Voici les 30 Glorieuses et je vous retrouve avec grand plaisir, votre tous, demain. Au revoir, merci.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.